J'avais cette pensée du Dieu qui pourvoit, donc dans Genèse chapitre 22, et je voulais parler des ressources que Dieu nous communique. Et puis finalement, je me suis dit, il faut que je lise le contexte, nous le connaissons bien, mais qu'est-ce qui a amené Abraham à dire dans cette montagne, eh bien, Yahvé, j'irai. C'est Dieu pourvoira. Qu'est-ce qui a amené Abraham à dire cela? Et on parlera plutôt un petit peu de l'école de la foi d'Abraham, parce que la Bible nous présente Abraham comme le père des croyants. Voilà, ce qui caractérisait Abraham, c'est une foi, une confiance en Dieu. Et il a été même appelé ami de Dieu. Mais c'est au travers de circonstances particulières qu'Abraham a pu déclarer ces choses. Et c'est intéressant de voir comment un homme de la même nature que nous, un païen, Abraham était un idolâtre, c'était un païen, comment Dieu l'a sorti d'Ur en Chaldée et l'a conduit sur le chemin de la foi, sur le chemin, les voies de Dieu. Et cet homme a grandi au fur et à mesure dans la foi, au fur et à mesure des expériences. Et je crois que nous avons besoin d'expérimenter la parole de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu, d'expérimenter l'action de l'Esprit dans notre vie. Dieu n'est pas un Dieu théorique, mais c'est un Dieu très pratique, un Dieu de la vie de tous les jours, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui agit. Et d'ailleurs, quand on y reviendra, là on fera juste une introduction ce soir sur Abraham, mais on y reviendra, chaque fois que Dieu révèle son nom, par exemple Jéhovah Jiré, c'est Dieu pourvoira, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois qu'il y a une révélation, il y a aussi une caractéristique de Dieu, le caractère de Dieu, comme Jésus dans l'Apocalypse, se révéler aux églises par rapport aux besoins de l'église. Et Dieu se révèle chaque fois, eh bien, par rapport aux besoins de la personne, Dieu va révéler quelque chose de son cœur, de sa nature, de sa caractéristique. C'est bon de connaître Dieu. Mais je crois qu'on le connaît si peu. Et on a besoin de le connaître davantage. Alors c'est vrai que l'école de la foi, on dit, moi je veux y aller dans cette école de la foi, mais Dieu se révèle dans des circonstances particulières. Alors si je vous pose une question ce soir, qu'est-ce qui va permettre à Dieu de se révéler dans notre vie? Très souvent, c'est... J'ai pas entendu. Plus fort? Ah, l'épreuve, voilà, c'est ça. Donc c'est au travers de l'épreuve que Dieu va révéler quelque chose de sa personne et nous faire grandir. Alors les épreuves, on ne les aime pas, hein? Non? Qui ne les aime pas, là? Ben, vous ne pouvez pas grandir dans la foi. C'est sûr et certain. Quand on voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, ces hommes qui ont connu Dieu, qui ont côtoyé Dieu de près, qui ont connu quelque chose de son cœur, de sa nature, c'est des hommes et des femmes qui ont traversé des épreuves, des moments très difficiles, et Dieu a pu se révéler. Et nous aussi, eh bien, nous devons passer par cette étape, par ces étapes, comme Abraham, quand nous le voyons. Donc Abraham va être secoué dans le chapitre 22, on va lire ces quelques versets. Genèse 22, vous les connaissez bien, mais c'est bon toujours de lire la parole. Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel, rangea le bois, lia son fils Isaac, et il mit sur l'autel, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Voilà, Abraham va être secoué dans sa vie, dans sa vie de tous les jours, là où il était installé, à Beersheba. Et vous savez qu'Abraham était appelé comme un pèlerin, à marcher, à ne pas s'arrêter et toujours marcher vers le pays de la promesse. Et il nous est dit dans les versets qui précèdent, dans le chapitre 21, vers la fin, il nous est dit que Abraham a longtemps séjourné dans le pays des Philistins. Il s'est arrêté à Beersheba pour séjourner, il s'y est installé. Et Dieu va, à un moment donné, le secouer et l'appeler, comme nous l'avons lu ensemble, l'appeler pour le faire passer par cette épreuve, pour sonder son cœur, parce que Dieu savait qu'il allait lui offrir, mais Abraham a été mis devant le fait, et Dieu a voulu sonder son cœur pour voir s'il y avait la foi et la qualité de la foi. Il n'y a que l'épreuve qui peut révéler la qualité de notre foi. Dans la première épître de Pierre, il est dit au chapitre 1er, je crois que c'est au verset 7, que notre foi doit être purifié, il est dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi produise la louange. Et il est dit, entre parenthèses, que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or, afin que de retirer quelque chose. Donc l'épreuve est non seulement nécessaire, elle est utile et elle est bénie. J'ai entendu un amen sur la gauche. Voilà. Mais c'est la vie avec Dieu, hein. C'est comme ça, qu'on tourne comme on veut. Si on n'aime pas les épreuves, de toute façon, on grandira jamais. Enfin, c'est pas si on n'aime pas les épreuves, si on n'a pas intégré que Dieu veut nous faire passer dans certaines étapes, dans certaines circonstances de notre vie, pour révéler, sonder notre cœur. Est-ce qu'on connaît vraiment notre cœur? Alors qu'ils vont dire, oui, moi je connais parfaitement. On ne connaît pas vraiment notre cœur. On peut proclamer des choses et notre cœur est à 10 000 lieues de ça. Jérémie le prophète dira que le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Cœur naturel de l'homme. Mais le cœur spirituel même, qui peut le sonder si ce n'est Dieu? Et même David dira à Dieu dans le psaume 139, il dira « Mais sonde-moi et connais mes voies, regarde si je suis sur la bonne voie et ramène-moi dans la voie de la vérité, dans la voie de l'éternité, ramène-moi, sonde mon cœur. » Est-ce que nous voulons que Dieu sonde notre cœur? Quand on sonde dans le médical, c'est pas terrible. Hein, eh ouais. Mais Dieu veut sonder notre cœur pour que nous puissions, eh bien, avoir la réalité, demander à Dieu ce que notre cœur a besoin. Pas ce que notre cœur désire seulement, mais ce que notre cœur a réellement besoin. Et Dieu va bousculer Abraham dans sa vie de tous les jours. Alors, on peut dire quelles sont les caractéristiques des épreuves de Dieu et comment nous pouvons les traverser fidèlement, en vainqueur. Comment nous pouvons traverser les épreuves? C'est ça qui est intéressant, parce que les épreuves, on en aura. On en a, on en a eu, et on en aura. Alors, là, je parle uniquement des épreuves voulues de Dieu. Je ne parle pas des épreuves qui sont les conséquences de notre vie, d'erreurs et de péchés. Je parle là seulement des épreuves voulues de Dieu. Pas permises, voulues. Alors, Abraham a été mis à l'épreuve déjà dans Genèse 12. Vous vous rendez compte, Dieu a pris Abraham de là où il était, en Ur, en Chaldée, et il lui dit, voilà, maintenant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, et je te montrerai l'endroit où tu dois aller. Si ça, ce n'est pas une épreuve, tu pars, mais tu ne sais même pas où tu vas. Et ça a été le premier pas de la foi d'Abraham. Il a obéi. La première fois dans Genèse 12, il obéit, il part. Et vous savez que l'obéissance, c'est plus précieux que l'or avec Dieu. Quand on obéit, on ne sait pas tout. Mais sinon, on n'aurait pas besoin de foi si on savait tout. Mais dans nos vies, on ne sait pas l'avenir. Mais Dieu sait, et on lui fait confiance. En Genèse 12, Dieu l'appelle, donc il lui montrera. Dans Genèse 13, il y a un conflit. C'est dans la terre promise, déjà, il y a un conflit entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Encore une épreuve. Et Dieu le conduit sur la montagne, encore un petit peu plus haut. Dans Genèse 14, il y a un autre conflit avec les rois des Amoréens, les rois de Mésopotamie qui ont enlevé Lot et sa famille. Il va les délivrer avec 300 de ses meilleurs guerriers. Encore une épreuve, et ça continue tout au long, chaque chapitre, nous nous apercevons qu'il y a des circonstances particulières. Abraham n'est pas devenu du jour au lendemain le père des croyants, il n'est pas venu du jour au lendemain ami de Dieu. Ça a été un cheminement, une communion, une profondeur, des expériences, des épreuves, afin que Dieu se révèle dans son cœur. Dieu ne peut pas se révéler dans un cœur charnel, c'est pas possible. Un cœur superficiel, Dieu se révélera jamais, ne se révélera jamais. Parce que Dieu se révèle dans un endroit où il est préparé, où on va honorer son nom, où on va le glorifier, où il va être Seigneur. Il va se révéler dans ces endroits-là. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, hein. Donc c'est important de réfléchir et de réaliser. Donc, alors qu'Abraham a servi le Seigneur, il a dû faire face à de nombreuses épreuves et nous sommes appelés, nous aussi, à traverser ces épreuves. Bon, je ne vais pas lire tous les textes qui nous parlent de l'épreuve parce que ce soir, cette nuit, on y sera encore, hein. C'est pour ça que je vous dis, le Nouveau Testament, il regorge. J'ai pris dans l'épître de Jacques, texte aussi bien connu, au chapitre 1er. Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas comprendre ce texte. Et Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vous voyez, c'est par la foi qu'on peut prendre ce texte et dire, ouais, humainement, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais par la foi, je sais que l'épreuve va produire quelque chose dans ma vie. Et en l'occurrence, il est question de la patience. Vous savez que la patience est une des vertus plus difficiles à atteindre. Il y en a un qui a dit « Merci Seigneur pour ta patience, mais exauce-moi rapidement. » La patience. On a l'impression qu'on est patient quand on est là, il n'y a rien, mais dès que ça bouge et qu'il y a des éléments qui... le caractère, il sort. Non, ça ne vous fait pas comme ça. Moi, oui. Ah oui, il y en a, oui. Ça fait comme ça. On est là, on est patient, là. On est stoïque, c'est bien, ça. C'est calme. Dès qu'il y a des éléments qui se déchaînent et des choses qui... Seigneur, donne-nous ta patience, mais bon, permet que nous puissions obéir à ta parole. Dieu nous fait passer par certaines circonstances pour tester notre cœur, pour savoir, comme je le disais, s'il y a déjà la foi et quelle est la qualité de notre foi. Souvenons-nous que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Hébreux 11, je crois que c'est au verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » On peut faire tout ce qu'on veut, toutes les œuvres qu'on veut. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pour que la foi grandisse, il nous faut l'épreuve. La vie chrétienne est une vie de foi. C'est à contre-courant de l'esprit de ce monde. Vous savez, dans l'esprit de ce monde... il faut tout savoir, tout connaître, être assuré pour tout, rien d'imprévu, il faut vraiment tout maîtriser. Ça, c'est l'esprit de ce monde. L'esprit de Dieu nous amène à lui faire confiance sans savoir. Comment, frère? On ne sait pas et... Eh bien oui, mais c'est ça la foi. C'est de connaître celui qui nous a parlé. Et même si on ne connaît pas les circonstances, lui les connaît. Et quand on s'abandonne entre ses mains et qu'on lui fait confiance, il nous conduit. C'est cela la foi, l'esprit de ce monde. Parfois dans la vie chrétienne, on veut tout savoir, tout être assuré. Seigneur, parle-moi, donne-moi la virgule, donne-moi... Non, le Seigneur, on lui fait confiance. On lui fait confiance, on n'a pas tous les éléments comme Abraham. Il dit, le pays que je te montrerai. Pas évident, hein? Bien, je crois qu'au fur et à mesure, eh bien, Dieu l'a conduit, et certainement il l'a conduit là où il devait le conduire. Voyons quelques enseignements sur l'épreuve, juste une introduction, mais sur l'épreuve d'Abraham, comment il a réussi ce test quelque part, parce que c'est un test, comment il a réussi pour aller plus loin. Dieu nous fait réussir toujours pour aller plus loin. Dieu nous fait traverser ces difficultés pour bien qu'on puisse grandir dans la foi, grandir spirituellement. Si la vie de Dieu est en nous, et je crois qu'elle y est, bien la vie, elle se manifeste, ça pousse toujours, un enfant grandit, voilà, la vie, elle se manifeste. Et si elle est en nous, elle va se manifester. Donc, dans 6 mois, nous devons être meilleurs qu'aujourd'hui. Et dans 10 ans, méconnaissable par rapport à aujourd'hui, dans le bon sens. C'est ça la vie avec Dieu, et c'est ce que Dieu veut, qu'on grandisse dans la foi. Et au fur et à mesure qu'on grandit, Dieu se révèle aussi d'une manière particulière. Dans Genèse 12, Abraham ne connaissait pas Dieu, comme dans Genèse 18, par exemple, où il intercède pour Sodome et Gomorre, parce qu'il y a Lot. Et dans Genèse 22, il le connaîtra encore mieux que dans Genèse 18. Vous voyez, c'est une vie de révélation avec Dieu, et nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à cela les uns et les autres. Donc, quelques enseignements. En tous les cas, la Bible nous enseigne que Dieu nous prépare aux épreuves, et nous devons nous y attendre. On va dire le frère quand même. Oui, Dieu nous prépare aux épreuves, et nous devons nous y attendre, puisqu'elles sont nécessaires pour que notre foi grandisse, pour que nous grandissions spirituellement, donc nous devons nous attendre à traverser ces temps où Dieu va nous laisser, afin que nous puissions faire appel à lui, que nous puissions crier à lui, et qu'il puisse se révéler et pourvoir. C'est comme ça. Abraham n'aurait jamais connu le Dieu qui pourvoit s'il n'était pas passé par cette épreuve-là. Donc, c'est nécessaire. Nous devons nous préparer, nous y attendre pour grandir ensuite. 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il nous est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris, étonnés. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable. Alors c'est bon quand c'est l'épreuve voulue de Dieu, parce que Dieu dose, Dieu pourvoit, Dieu est avec nous, Dieu nous prépare, Dieu nous fortifie. Quand c'est une épreuve causée par nos inconséquences ou le péché, malheur à nous, parce que là c'est incontrôlable. Hein. Alors les épreuves voulues de Dieu, oui. Dans Genèse 22 au verset 1 à 3, dès le début, Dieu appelle Abraham à offrir son fils en holocauste, et regardez la réaction d'Abraham. La réaction d'Abraham, il n'a pas été en colère, il n'a pas posé de questions à Dieu, il n'a pas rechigné, il n'a pas gémi, il a obéi. Il s'est couché le soir, le lendemain, de bon matin, il a obéi. Contrairement à d'autres récits avec Abraham, vous pouvez lire dans Genèse 15, dans Genèse 18, Abraham va parler avec Dieu. C'est pas qu'il va négocier, mais il va parler, il va poser des questions. Et dans Genèse 18, il va intercéder. Il dit, Seigneur, mais s'il y a 50 justes, s'il y en a 45, il va parler avec Dieu. Là, dans Genèse 22, il ne dit rien. Il ne se plaint pas, il n'est pas en colère. Il sait que c'est des moments précieux, indispensables. Il sait que c'est un tournant dans sa vie. Et si Dieu l'a conduit sur cette montagne, c'est pour une raison. C'est pour ça qu'on doit faire confiance à Dieu. Parce qu'il est notre Père céleste. Et quand il nous conduit, dans certaines circonstances, il faut lui faire confiance. Ne nous rebellons pas, ne gémissons pas, mais Seigneur, si tu m'as conduit, l'important c'est que Dieu soit avec nous. C'est que Dieu pourvoie, comme dans ce texte. Abraham a appris non seulement à attendre ces moments précis, mais faire pleinement confiance à Dieu. Et nous nous apercevons que, parce que peut-être on a mal compris la vie chrétienne, la parole, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas assez trouvé de place en nous, mais on s'aperçoit que beaucoup lâchent la main du Seigneur dans les moments difficiles. Non ? Jésus, de toute façon, le dira dans Matthieu chapitre 13, la parabole des terrains, verset 20. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous voyez, il y trouve une occasion de chute. Non, il faut que dans nos cœurs, il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait cette terre, cette bonne terre dans notre cœur. Nous devons nous attendre à passer par des épreuves. Et de plus, Dieu prépare nos cœurs pour les traverser. Moi, je crois que Dieu nous prépare toujours avant. Dieu ne nous envoie pas dans quelque chose où on se débrouille, mais Dieu a prévu, préparé, et pendant l'épreuve, il fournit aussi les moyens de subsistance. Par exemple, pour Abraham, en Genèse 21, pour son fils Ismaël, Dieu va lui dire, voilà, à un moment donné, Dieu lui parle, et lui laisse Ismaël partir, parce que Ismaël, sa maman, laisse-les partir parce que j'ai prévu pour eux. J'ai préparé une postérité pour Ismaël. Donc Dieu, Abraham laisse partir ce fils, Ismaël, c'était son fils, il le laisse partir parce que Dieu le lui a dit, et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, il y a un plan, il y a une postérité pour Ismaël. Et là, pour Isaac, il lui demande de lui offrir. Dans l'épreuve voulue de Dieu, comme je l'ai dit, nous prépare, il est avec nous et prépare également le moyen d'en sortir victorieux. Donc c'est bon de savoir que l'épreuve qui est permise par Dieu, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir victorieux. Donc il faut qu'on fasse confiance, dire je traverse ces temps, mais je sais que non seulement Dieu est avec moi, mais qu'il va me faire sortir victorieux, victorieuse, grandie spirituellement. Dieu a déjà prévu. Dieu n'est pas dépassé par les circonstances et les événements, mais il a déjà prévu. Et nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 10, 13, verset que nous connaissons bien. « Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Il dose. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Formidable. Dieu nous prépare avant, il est avec nous pendant, il prévoit déjà le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Ça, c'est notre Dieu. Puisque c'est indispensable, il faut y passer, mais Dieu est avec nous. Et il nous est dit, aucune tentation qui n'ait été humaine, que nous puissions supporter. Donc Dieu sait doser l'épreuve dans notre vie, au moment où nous en sommes. Bien sûr, si nous sommes un bébé spirituel, Dieu ne va pas demander la même chose qu'à Abraham. Mais Dieu ne nous demandera pas la même chose qu'à Abraham. Ça préfigure bien sûr Jésus, qui a pourvu, Dieu a donné son fils. Mais il y a des épreuves difficiles, Dieu ne les demandera pas à un nouveau-né spirituel. Vous comprenez? Dieu sait doser, et au fur et à mesure, comme on ne demande pas à un enfant de CP de faire le théorème de Pythagore, hein. Je pense pas, non, c'est pas enseigné, non, ça va. Du côté de Dieu, il nous fait traverser uniquement les épreuves qu'il a préparées pour que nous puissions nous laisser aussi façonner. Dieu met à notre disposition toutes les ressources nécessaires pour être prêt pour l'épreuve, mais également pour les combats. Vous savez que Dieu a prévu pour tout, pour résister à la pression d'où qu'elle vienne. Dieu a tout prévu dans la Bible. Et c'est de cela qu'on parlera des ressources que Dieu met à notre disposition. Si on savait toutes les ressources que Dieu met à notre disposition, on serait une assurance extraordinaire. Il faut que, en méditant la parole, nous puissions recevoir ce que Dieu met à notre disposition. Par exemple, dans 1 Timothée 4, 7, Paul dit à Timothée, « Exerce-toi la piété. » Alors, dans les temps où on ne traverse pas l'épreuve, on s'exerce à la piété. On se prépare, comme le soldat, quand il se prépare, il n'est pas en guerre, mais il se prépare tous les jours. Tous les jours, je vois les légionnaires, ils font des footings tous les matins, 10 kilomètres chaque matin, voilà, de footing. Ça, c'est un entretien simple, il m'avait dit, un des légionnaires m'avait dit, c'est juste un petit entretien, 10 kilomètres chaque matin. On les voit courir avec leur rouge, jaune, je ne sais pas s'il y en a qui les ont vus, non? Oui, vous les avez vus. Mais là, il s'entraîne tous les jours. Pourquoi? Parce que le jour où il va falloir combattre, il faut qu'il soit prêt. Le jour de l'épreuve, le combat, il faut qu'il soit prêt. Et Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi. C'est un exercice. La piété, la prière, l'adoration, la méditation, c'est un exercice de tous les jours. Et quand on traverse l'épreuve, on n'est pas pris au dépourvu parce qu'on a été préparé par Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu met à notre disposition, par exemple également, dans 2 Pierre au chapitre 1er, verset 3, il est dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de Jésus, Dieu a tout mis à notre disposition. C'est formidable ça, quand on le sait, il faut que par la foi on le reçoive. Seigneur, tu as mis à ma disposition toutes ces choses, mais des fois je vis comme si j'étais un orphelin, comme si j'étais démuni, faible, incapable. Mais Seigneur, tu m'as donné tout cela, c'est pour moi. Je suis ton enfant, c'est pour moi, Seigneur. Je veux exercer la foi et recevoir ces choses afin de pouvoir traverser les difficultés en vainqueur. Maintenant, dans les combats, bon, il y a juste deux ou trois versets, mais il y en a tellement. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 13, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est quand il faut se revêtir de toutes ces armes. Dieu nous les a données, il nous les a communiquées. Nous sommes forts, frères et sœurs en Christ. Nous sommes forts. Et l'apôtre Jean le dit dans sa première épître. L'apôtre Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi ? Parce que la parole habite dans votre cœur et que vous avez vaincu le malin. Vous l'avez vaincu. Jeunes gens, vous êtes forts. Non, l'Église n'est pas misérable. Non, l'Église n'est pas livrée elle-même. Non, le chrétien n'est pas désespéré. Le chrétien n'est pas dans « je ne sais plus où j'en suis ». Si, nous savons, quand Jésus est dans notre cœur, quand il conduit nos vies, nous savons où nous en sommes. La Bible nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses. Elles sont pour nous. Elles sont pour vous, elles sont pour moi. Et dans toutes les situations de notre vie, eh bien Dieu va pourvoir par rapport à la situation où nous sommes. Amen. Voilà, donc les ressources de Dieu, on en parlera, le Dieu qui pourvoit. Mais quand nous regardons en arrière, nous pouvons dire avec certitude, voilà, il y avait des épreuves, ça semblait insurmontable. Il me semblait que j'y arriverais pas. Et nous sommes là aujourd'hui. Il a été fidèle. Il nous a secourus, et les épreuves qui nous semblaient insurmontables, eh bien avec lui, nous les avons traversées. C'est lui qui nous a fortifiés, ce n'est pas nous, mais c'est lui qui nous a fortifiés. Humainement, nous serions tombés, mais avec lui, eh bien nous avons pu traverser ces épreuves. L'épreuve prévue par Dieu, au premier abord, semble parfois incompréhensible et illogique. Parce qu'on a un raisonnement, nous, il faut que ce soit comme ça, comme ça. Ah, ça c'est... Non, l'épreuve, elle peut nous sembler illogique, venant de Dieu. Comme ce que Dieu demande à Abraham, ça semble illogique. Mais il y a une raison. Dieu a une raison de nous faire traverser ce qui nous fait traverser. Dieu a une raison et un plan. C'est pas illogique dans la pensée de Dieu, c'est clair. Dans la nôtre, on ne comprend pas, souvent. On ne comprend pas les choses, mais puissions-nous lui faire confiance. Lui, il sait où il va, il sait où il veut nous mener. Alors, ce que Dieu va demander à Abraham, Dieu a promis qu'en Isaac, il aurait une postérité, et là, Dieu lui demande justement ce fils. Ça semble de lui offrir en sacrifice. Nous nous posons peut-être parfois la question par rapport à notre vie, ce que nous traversons. Cela semble dans un premier temps négatif, mais faisons-lui confiance. Lui, il sait ce qu'il fait, nous non, mais lui, il sait ce qu'il fait. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, celles de Dieu, elles sont bien meilleures. Parce que Dieu agit pour le présent, comme je l'ai déjà dit, et il agit aussi pour l'éternité. Il nous prépare. Nous, on voit juste le présent, mais Dieu voit bien loin ce qu'il est en train de faire avec chacun d'entre nous, avec l'Église. Dieu a déjà son plan, il va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons penser. Pour rester fidèle à Dieu dans l'épreuve, dans le test de notre foi, il faut comprendre que ce que Dieu nous demande souvent, c'est ce que nous avons peut-être de plus cher ou de plus précieux. Comme il a demandé à Abraham, son fils, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça fait quand même, non? Il aurait pu dire Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ça quand même. En fait, nous pouvons nous poser la question de l'affection ou de la relation qu'Abraham avait avec son fils Isaac. Est-ce que cette relation n'était pas devenue un petit peu un porte-à-faux avec Dieu? Souvenons-nous qu'il l'a eu à l'âge de 100 ans, fils de la vieillesse. Certainement, il y avait une relation très très de proximité, mais peut-être aussi qu'il y avait le danger de l'idolâtrie. Le danger de l'idolâtrie, celui que tu aimes, ton unique. Certainement, Dieu n'a pas voulu, et certainement aussi, Abraham s'est installé, peut-être aussi, en raison de cela. Il s'est installé, il devait séjourner, et il s'est installé. Est-ce que Dieu peut nous demander de lui remettre notre Isaac à nous? Peut-être quelque chose qui nous prend du temps, de l'énergie, qui, je ne sais pas, peut-être une passion même, ça peut, je ne sais pas, est-ce que Dieu peut nous demander de lui offrir cette relation, cette passion, cet objet qui prend ce temps et cette énergie? Jésus, dans Luc au chapitre 14, verset 26, Jésus dira, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses enfants, et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors c'est vrai qu'on peut méditer cela, hein. Jésus n'appelle pas à la haine, hein. On le sait, mais dans les termes bibliques, bon, vous méditerez ça, mais... Voilà, mais en tous les cas, il dit, la relation ne doit pas passer par-dessus la relation avec Dieu. C'est cela, un disciple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, et ensuite ton prochain comme toi-même. Dieu en premier, le royaume de Dieu en premier, l'œuvre de Dieu en premier. Il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de Dieu, pour du sentimentalisme. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la foi qui prime. C'est pas le sentimentalisme. Et si Christ est en premier dans notre vie, eh bien on va aimer plus et aimer mieux les membres de notre famille et les autres. Si Christ est en premier. Parce que l'amour vient de lui. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, il faut pas qu'une relation passe avant Dieu. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des choses comme le travail, les loisirs, les amis, les distractions, même les activités religieuses. On peut idolâtrer beaucoup de choses, hein. Notre identité, ça peut être notre service, hein. Moi, ma vie, c'est pas pasteur, hein, c'est Christ. C'est pas... Je vous choque ? J'idolâtre pas la Bible, comme dit le pasteur Hébert, on n'idolâtre pas, on adore Jésus. Notre vie, c'est Christ. C'est pas notre activité, c'est pas, même si ça s'arrête, et d'ailleurs quand on peut plus trop bouger, ça s'arrête l'activité. Mais Christ reste dans notre cœur. Et on continue à le servir dans la prière, dans la louange, etc. Donc il faut pas que ces choses prennent le pas, mais il faut que si... on sent qu'elles sont là, eh bien il faut les offrir sur l'autel. Lorsque Dieu teste ces zones-là, qui sont des zones vulnérables quand même, et quand Dieu les teste, c'est toujours pour nous en détacher et nous attacher plus à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. dira un ami de Job, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras de la paix. Alors comment devons-nous répondre quand Dieu nous teste dans ces domaines-là, dans nos trésors? Eh bien, il nous faut obéir spontanément, obéir d'une manière pratique. L'obéissance nous préservera de toute idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu. Comme il est dit, dans le ciel, il y avait un trône, voilà, et puis après d'autres trônes, mais le trône principal, et c'est l'agneau qui était assis dessus. Dans nos cœurs, il y a aussi un trône, soit c'est le moi, soit c'est une idole, soit c'est Jésus. Mais le trône, il a la place de Jésus, c'est lui qui doit l'occuper. Donc ça nous préserve de l'idolâtrie, et cela nous recentre sur l'essentiel, sur Dieu, sur l'objectif prioritaire. Dans Proverbe chapitre 4 et verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Veillons sur notre cœur afin que l'idolâtrie ne vienne pas s'installer et prendre peu à peu la place de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie était jugée sévèrement. Vous prenez l'exemple de Jéroboam, par exemple, qui a fait deux veaux en or, qui a fait pécher le peuple, venir se prosterner, etc. Jéroboam a mal fini dans... j'ai noté dans 1 Rois chapitre 12 et 13, dans 1 Corinthiens 10, 14, il est dit « C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et dans Romains 1, 25, il est dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Pour que l'épreuve ne soit pas subie, mais traversée par la foi, nous devons pratiquer l'obéissance immédiate, comme Abraham. Voyez Abraham, oui Seigneur, me voici. Il se lève de bon matin et il obéit, il prépare et il y va. Pourquoi pouvons-nous obéir immédiatement? Parce que nous connaissons Dieu. Et quand on sait que Dieu, qui est notre Père, nous demande quelque chose, c'est pas pour nous... écrasés, c'est pas pour nous ennuyer, mais quand Dieu nous demande quelque chose, c'est qu'il a un plan béni pour nous. Moi, je peux le voir que comme ça. Quand Dieu nous amène dans un lieu où nous sommes seuls, où nous n'avons plus de ressources, plus rien sur quoi s'appuyer, bien appuyons-nous sur lui. Des amis peut-être qui s'écartent, je sais pas, un travail qui vient pas, appuyons-nous sur Dieu. Faisons-lui confiance. Apprenons dans ces moments difficiles parce que c'est le moment les plus précieux où Dieu peut agir. Appuyons-nous sur lui de tout notre cœur. Abraham a obéi, il scella l'âne, rassemble les serviteurs et son fils Isaac, il fend le bois pour l'holocauste et il part. Que se passe-t-il si nous n'obéissons pas spontanément, si nous laissons, ou même s'il y a de la rébellion dans notre cœur, que se passe-t-il? Eh bien, la première des choses, c'est que cela ouvre la porte à l'ennemi pour nous tenter. Si nous ne répondons pas favorablement à Dieu, une porte est ouverte pour que l'ennemi vienne nous tenter. Et nous amener dans le découragement, et le découragement dans le péché. Alors, péché dans l'épreuve, péché, c'est, je ne parle pas de péché grossier, mais péché dans l'épreuve, désobéir, avoir des mauvais sentiments, etc. Péché dans l'épreuve, ça va faire que l'épreuve va se répéter, comme un disque rayé. Nous péchons, l'épreuve continue. Nous péchons, l'épreuve continue. Comme le peuple dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné en rond, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cou raide. Je parle pas des cervicales, là, mais c'est le cou raide, c'est vraiment résister à Dieu. Ils étaient opposés. Ils attribuaient à Dieu des choses mauvaises. Dans le couple, la famille, etc., il y a des indications. Si nous ne les pratiquons pas, il va y avoir, on va tourner en rond. Il faut pratiquer la vérité, obéir spontanément. Alors je termine pour cette introduction. Donc cela ouvre la porte à l'ennemi. Et nous finissons par passer des années, comme le peuple dans le désert, à tourner en rond et en n'ayant rien, pas du tout grandi spirituellement, en ayant toujours un cœur pareil, des habitudes les mêmes, Dieu ne se révèle pas, c'est pas un programme qui vous intéresse. Hein. Si ? Qui c'est qui a levé la main ? Non, c'est voilà, mais c'est ça. On ne pratique pas, on n'obéit pas, on n'a pas d'expérience, Dieu ne se révèle pas, et c'est toujours pareil. C'est la religion, voilà, mais Dieu nous a appelés à une relation avec lui, une relation grandissante dans la communion avec lui. Alors le cœur, bien sûr, s'endurcit et devient peu à peu insensible à la voix de l'esprit, à tel point que la parole peut être prêchée, que nous puissions la lire, elle change absolument rien dans notre vie. Ça, c'est un cœur, je parle de chrétien, hein, pas de quelqu'un qui, si au milieu de nous, ne connaît pas Dieu. Je parle de chrétien depuis des années. Si la parole ne change rien, si la prédication ne change rien, c'est que notre cœur est très endurci. Et là, il faut une repentance, j'allais dire sévère, une repentance réelle pour creuser à nouveau des sillons et que la terre, à nouveau, elle produise du fruit. Il faut des jeûnes et prières, des pleurs devant Dieu quand le cœur est endurci. Ah, c'est vraiment, il faut traverser ça. Hein. Abraham a expérimenté bon nombre de bénédictions en obéissant spontanément à la parole de Dieu. Et vous le lisez, chaque fois qu'Abraham a obéi, il a été béni. Et nous le voyons dans tout son pèlerinage. Savons-nous que les ressources de Dieu sont déversées dans notre cœur quand nous obéissons ? Acte 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et enfin, dernier verset, dans Psaume 84, verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors vous voyez, ces pèlerins, ils traversaient une vallée terrible, une vallée dangereuse, c'était vraiment l'épreuve, et eux-mêmes, par la foi, ils transforment cette vallée en un lieu plein de sources et la pluie les couvre de bénédictions. Voilà. C'était une simple introduction. On continuera dans ce domaine. Mais essayons de voir la vie chrétienne comme Dieu l'a prévu et non pas comme on le pense. Hein, c'est d'une manière humaine, charnelle, non. Mais par l'Esprit de Dieu, nous comprenons que, eh bien, nous avons besoin, c'est nécessaire, c'est indispensable, l'épreuve pour connaître Dieu, finalement, pour connaître Dieu.